Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons à la fin du chapitre 16, pardon, 14 de Saint Marc, l'Évangile selon Saint Marc. C'est un des deux chapitres donc, qui couvre la passion de notre Seigneur, chapitres 14 et 15 de Saint Marc. Aujourd'hui, je voudrais terminer au moins le chapitre 14, je pense. Donc, nous en sommes sur le polycopier, donc à Saint Marc, chapitre 14, verset 43, sur le polycopier qui couvre les chapitres 11 à 16, à la page 25. Comme Jésus parlait encore, Judas Iscariote, l'un des 12, vint avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les scribes et les anciens. Or celui qui le trahissait leur avait donné ce signal en disant « Celui que je baiserai, c'est lui. » Saisissez-le et amenez-le avec précaution. Étant donc arrivé, il s'approcha aussitôt de Jésus et dit « Maître, je vous salue. » Et il le baisa. Alors ils mirent les mains sur Jésus et ils le saisirent. Un de ceux qui étaient présents, tirant son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Vous êtes venus comme contre un voleur, armé d'épées et de bâtons, pour me prendre. Tous les jours, j'étais au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point arrêté, mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Alors ses disciples, abandonnant, s'enfuirent tous. Cependant, un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap, ils le saisirent, mais lui, rejetant le drap, s'enfuit nu de leurs mains. Alors, il faut méditer un peu cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que le premier point de méditation très important, c'est comprendre que ceux qui vont trahir notre Seigneur Jésus-Christ sont ses amis très chers. Et que notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir beaucoup plus de la trahison de ses apôtres, ceux qu'il avait choisis lui-même, un par un, plutôt que de la trahison des pharisiens, des scribes et des chefs de l'autorité romaine ou juive. Pourquoi? Parce que évidemment on souffre beaucoup plus quand quelqu'un qui nous fait du mal est quelqu'un de très proche. On souffre plus des injures qui viennent d'un ami très cher que des injures qui viennent d'un ennemi. Quand une injure vient de nos ennemis, je dirais, on n'en souffre pas trop, c'est normal, ils font leur travail. Par contre, quand la même injure vient d'un ami très cher, on en souffre beaucoup plus. Et c'est dans ce passage-là qu'il y a peut-être le verset le plus important de l'Évangile. Ses disciples, tous l'abandonnant, s'enfuirent. Tout le monde. Tout le monde s'enfuit, sauf la très sainte Vierge Marie. C'est la seule qui va rester fidèle. Les femmes vont rester fidèles. Mais les disciples, plus exactement les apôtres, vont tous s'enfuir. Ça fait quand même réfléchir. N'oublions pas que ceux qui vont trahir notre Seigneur Jésus-Christ, à commencer par Judas, viennent d'être ordonnés prêtres le même jour, quelques heures auparavant, le jeudi saint en soir, ils ont été ordonnés prêtres, ils sont devenus évêques, et pourtant, quelques heures après avoir reçu ce sacrement éminent, ils vont trahir notre Seigneur. Je pense que là est la réponse à une question qu'on nous pose très souvent. Monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'aujourd'hui il y ait une telle pagaille dans l'Église? Comment se fait-il que le bon Dieu ait permis que nous ayons un Bergoglio à la tête de l'Église de Vatican II, comment se fait-il que tant de gens se font berner par l'Église humaniste de Bergoglio et ne voient pas le piège? La réponse, elle est là, mes bien chers frères, dans la Passion. Comment se fait-il que ceux qui viennent d'être ordonnés prêtres par notre Seigneur Jésus-Christ les trahissent si rapidement après leur ordination? Souvent, on entend dire des gens qui vont nous dire, en parlant des prêtres d'aujourd'hui, des évêques d'aujourd'hui, mais monsieur l'abbé, il y a un problème avec la formation du séminaire. Voilà pourquoi on en est où on en est. Le problème n'est pas là. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a formé ses séminaires, ses séminaristes, les apôtres. C'est lui qui a donné tous les cours au séminaire, un séminaire qui a duré 3 ans. Et pas n'importe qui, bon, comme professeur, le Fils de Dieu lui-même qui donne les cours. Et pourtant, malgré ces cours extraordinaires qu'ils ont dû recevoir pendant 3 ans, ils vont tous trahir. Un autre point qui me semble important, après on expliquera les autres à partir des pères, c'est le baiser de Judas. Maître, je vous salue. Et il le baisa. Donc cela doit nous faire réfléchir combien de fois est-ce que moi j'ai offensé Dieu, j'ai perdu le bon Dieu, j'ai chassé le bon Dieu de mon âme par un baiser que j'ai donné, que j'ai reçu, que je n'ai ni le droit de donner, ni le droit de recevoir. Alors voyons un petit peu, nous en sommes à la page 26, en haut de la page, sur le polycopier encore une fois, chapitre 14 de Saint Marc, versets 43 à 52. Disons-le, disent les pères, tout cœur livré au mal et sans prévoyance. Donc Judas donne pour signal un baiser empoisonné par la perfidie, à l'exemple de Caïn qui offrit à Dieu un sacrifice hypocrite et réprouvé de Dieu. Cela va entraîner la mort d'Abel. Ici, le sacrifice hypocrite, cet acte d'amour hypocrite, parce qu'on donne un baiser à quelqu'un qu'on aime bien. Donc Judas, en donnant un baiser à notre Seigneur Jésus-Christ, pourrait faire croire qu'il aime notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est un baiser hypocrite, c'est un sacrifice hypocrite. Et donc, le sacrifice hypocrite de Caïn, qui n'est pas reçu de Dieu, entraîne la mort d'Abel, comme le sacrifice hypocrite de Judas entraîne la mort, non pas d'Abel, mais du nouvel Abel, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Saint-Pierre va même couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. On verra ça dans d'autres évangiles. Car les princes et prêtres étaient les premiers à transgresser les Écritures comme s'ils ne les avaient jamais entendues. Donc l'oreille qui est coupée de Malchus, le serviteur du grand prêtre, représente le fait que les princes et prêtres voyaient sans voir, entendaient sans entendre. Pourquoi ? Parce que leur âme était coupée de Dieu. Et donc ils avaient beau voir notre Seigneur Jésus-Christ faire des miracles extraordinaires, l'entendre remplir les prophéties de l'Ancien Testament, ils voient, ils entendent, mais ça ne passe pas à l'intérieur de l'âme. Et on est un peu de la même, on agit un petit peu de la même façon, nous aussi, à chaque fois que nous voyons, nous savons très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, nous savons que l'Église catholique est divine, mais dans la pratique, on fait comme si Dieu n'existait pas. On prétend être des catholiques. Oui, c'est vrai, je suis catholique, mais non pratiquant. Dieu existe, mais je fais comme s'il n'existait pas. Alors, autre remarque des pères. Le disciple s'enfuit loin de ceux dont il abhorre la présence et les œuvres, mais non loin du Seigneur, dont, tout absent qu'il était, il conserva l'amour profondément gravé dans son âme. Donc, à propos de ce disciple qui s'enfuit, c'est au verset 52. Un jeune homme qui le suivait, couvert seulement d'un drap, ils le saisirent, mais lui, rejetant le drap, s'enfuit nu de leurs mains. Les pères de l'Église ne sont pas d'accord pour savoir de qui il parle, de qui l'évangéliste parle. La plupart pensent que c'est saint Marc, qui n'était pas un apôtre, mais un disciple. Donc, il y avait aussi quelques disciples qui étaient là. D'autres pensent que c'est un autre apôtre. Ici, je vous donne les différents textes des pères que j'ai trouvés sur ce sujet. À l'exemple de Joseph qui s'échappa des mains d'une femme impudique en lui abandonnant son manteau, celui qui veut se dérober aux mains des méchants doit renoncer intérieurement à toutes les choses du monde et fuir à la suite de Jésus. Malheureusement, le jeune homme qui suit, qui laisse son drap et qui se sauve, ne va pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il va suivre sa volonté propre, ça va lui coûter très cher. Il va abandonner notre Seigneur Jésus-Christ comme les autres. Alors, il est vraisemblable, disent les pères, que ce jeune homme faisait partie de la maison où ils avaient mangé la Pâque. Alors, certains disent que c'est Saint Jacques, frère du Seigneur, se nommait le Juste, frère, c'est-à-dire cousin de notre Seigneur, et qui, après l'ascension de Jésus-Christ, fut établi par les apôtres, évêques de Jérusalem. D'autres disent que c'était Saint Jean, qui revint en effet au pied de la croix pour y entendre les paroles du Seigneur, mais qui s'était d'abord enfui dans un premier mouvement de crainte. On ne sait pas. Je pense que la plupart des pères parlent de Saint Marc, non pas un évangéliste ni un apôtre, mais je veux dire non pas un apôtre, mais un disciple qui devint évangéliste et le futur évêque d'Alexandrie. Alors Saint Pierre, comme les autres, va trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va demander pardon de ce qu'il a fait, contrairement à Judas. Et il va laver dans les larmes de la pénitence la faute de son renoncement. Il enseigne ainsi à ceux qui ont faibli dans l'épreuve du martyr comme ils doivent se relever. Et c'est un point extrêmement important à bien comprendre. Judas et Saint-Pierre, je vous l'ai déjà expliqué souvent, mais je reviens là-dessus parce que c'est capital. Judas et Saint-Pierre, les deux, ont trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Strictement parlant, le péché de Judas et le péché de Saint-Pierre sont les mêmes. Ce sont des péchés d'infidélité. Cependant, Saint-Pierre a demandé pardon. Il sortit, nous dit l'Évangile, de la cour du prétoire et il pleura abondamment. Par contre, Judas, lui, n'a pas demandé pardon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est la raison pour laquelle Judas n'a pas demandé pardon. Judas n'a pas demandé pardon à son maître, et s'il l'avait fait, il serait devenu saint Judas, comme il y a un saint Pierre. Judas n'a pas demandé pardon parce qu'il n'a pas cru que notre Seigneur Jésus-Christ était capable de lui pardonner un péché tellement horrible. Il a donc voulu limiter l'accès à la miséricorde de Dieu. En limitant l'accès à la miséricorde de Dieu, il limite la miséricorde divine elle-même. En limitant la miséricorde divine elle-même, comme Dieu est d'une miséricorde infinie, en limitant cette miséricorde, on limite la divinité. Si Dieu n'est pas tout à fait Dieu, n'est Dieu qu'à 70% ou 85%, il n'est pas Dieu. Donc en fait, le péché de Judas, c'est un péché qui entraîne la perte de la foi, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il avait cru que notre Seigneur Jésus-Christ était vraiment Dieu, il se serait jeté à ses pieds, il aurait été pardonné, il serait mort avec notre Seigneur. Ainsi, les autres disciples qui s'enfuirent au moment de l'arrestation de leur divin maître apprennent à ceux qui ne se sentent pas assez forts pour affronter les supplices à chercher prudemment leur salut dans la fuite. D'ailleurs, on voit très bien dans la discipline de l'église primitive, au moment des grandes persécutions donc, qui vont suivre la fête de la Pentecôte, il y aura des persécutions terribles, 10 grandes persécutions depuis la première sous Néron en 67 jusqu'à la dernière sous Dioclétien qui va finir avec la paix de Milan en 313. Il y aura des millions et des millions de martyrs et l'église a toujours interdit aux catholiques d'aller se livrer directement au bourreau parce que c'est un péché de présomption. L'église a toujours enseigné « cachez-vous ». Fuyez les persécutions. Si vous êtes pris, Dieu vous donnera la grâce. Mais n'allez pas chercher par vous-même à vous jeter dans les mains des persécuteurs parce que si le bon Dieu ne vous donne pas la grâce, vous allez devenir un lapsi, c'est-à-dire un tombé. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens, des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, sont cru trop forts, se sont livrés eux-mêmes directement au bourreau et ont failli dans la torture. Et donc, il faut, encore une fois, il faut méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas comme quelque chose de passé, mais quelque chose d'actif, d'aujourd'hui, une action d'aujourd'hui. La passion est renouvelée dans notre cœur à chaque fois que je commets une faute grave. Rappelez-vous la phrase du Saint Curé d'Ars que je vous ai souvent citée. Chaque fois que je commets un péché mortel, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon cœur. Donc cette passion, ce n'est pas simplement les actions des apôtres correspondent à nos actions à nous. Vous voyez ? Nous aussi, on aurait fait la même chose. Si les apôtres vont tous trahir notre Seigneur Jésus-Christ, soyons pas
ne faisons pas d'illusions, nous aussi nous aurions trahi notre Seigneur Jésus-Christ, avec une différence peut-être, c'est que nous serions sauvés, nous serions enfuis comme les autres, comme les disciples, comme les apôtres, mais en courant peut-être encore plus vite qu'eux. Avançons dans le texte sacré, Saint Marc chapitre 14, verset 53-59, dans la page 26. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les prêtres, les scribes et les anciens. Et Pierre le suivait de loin, jusque dans la cour du grand prêtre, et il s'assit près du feu, avec les serviteurs, et il se chauffait. Cependant, les princes et prêtres et tout le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns, se levant, portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais leur témoignage ne concordait pas. Effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit « Vous détruirez ce temple, mais je le reconstruirai en 3 jours. » Et ceux qui l'ont entendu parler ont pris ça au sens propre. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ désignait le temple de son corps. Vous allez détruire le temple de mon corps, vous allez me tuer, me crucifier sur la croix, mais 3 jours après, je ressusciterai d'entre les morts. Donc, je rebâtirai ce temple. Et eux ont pensé qu'il parlait du temple de Jérusalem, et pensaient que le temple serait détruit et reconstruit par notre Seigneur Jésus-Christ en 3 jours. 3 fois 24 heures, ce n'est pas du tout ce que voulait dire notre Seigneur. Alors voyons les textes des pères pour commenter ces versets, en bas de la page 26. D'abord un texte de Saint Bède le Vénérable. L'évangéliste fait remarquer avec raison que Saint Pierre suivait le Sauveur de loin. Verset 54, Pierre le suivait de loin. Lui qui allait bientôt le régner, car jamais ne serait venu à cette extrémité s'il s'était toujours tenu près de son divin maître. Donc ce petit mot, ces deux petits mots, de loin, Pierre le suivit de loin jusque dans la cour du grand prêtre, signifie l'imprudence de ceux qui cherchent à s'en tirer, surtout dans le moment de tentation, moment de difficulté, tout seul. Donc il faut le savoir que si je me tiens près de notre Seigneur Jésus-Christ dans les moments difficiles, les moments de désolation, les moments de tentation, les moments de découragement, à ce moment-là, le bon Dieu me donnera les grâces. Par contre, si je me tiens trop loin de lui, parce que je compte trop sur mes propres forces, je vais tout laisser tomber. C'est exactement ce qui s'est passé avec Saint-Pierre. Alors, quand il de ce feu, il s'assit auprès du feu avec les serviteurs et puis à Saint-Pierre se chauffer. Et donc, les pères font remarquer qu'il y a un autre feu, qui est celui de la charité dont Jésus a dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre » et qui, en descendant sur les fidèles, leur a enseigné à louer Dieu dans les langues si variées qu'il parlait. Les pères font allusion au feu du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va être distribué aux apôtres, aux disciples, aux saintes femmes, à la Sainte Vierge, sous la forme de langues de feu. Pourquoi ? Parce que le feu est tout un symbole. Le feu va réchauffer, le feu va protéger, le feu va éclairer. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit dans une âme. Le Saint-Esprit dans une âme va éclairer cette âme, va la protéger contre les ennemis et l'éclairer pour qu'elle puisse voir exactement où mettre les pieds pour aller vers notre Seigneur. Donc c'est à la fois le feu de la charité, c'est aussi le feu de la cupidité, disent d'autres pères. Feu de la cupidité dont le prophète a dit, ils sont tous adultères et leur cœur est semblable à un four où on a porté la flamme. C'est-à-dire le mauvais feu, il y a le bon feu et le mauvais feu. Le mauvais feu, c'est le feu de l'enfer. Le bon feu, c'est le feu de l'amour, l'amour du bon Dieu. La charité représentée par le feu divin. C'est pour ça qu'on représente toujours le Sacré-Cœur comme un cœur entouré de flammes pour bien montrer le degré d'amour que notre Seigneur Jésus-Christ a pour nous. Enfin, dernière explication des pères. Le feu, le souffle du malin esprit. Ce souffle qu'il avait allumé dans la cour de Caïphe et qui excitait la langue de ces hommes perfides à nier et à blasphémer le Seigneur. C'est-à-dire de même que le feu attaque l'arbre et détruit l'arbre en le consumant, de la même façon, le feu du démon va essayer d'attaquer l'âme de l'intérieur pour pousser cette âme à nier et à blasphémer notre Seigneur, comme Saint-Pierre lui-même a abandonné son maître en le trahissant 3 fois. En haut de la page 26, il y a encore d'autres textes sur ce sujet. Ce feu allumé dans la cour au milieu du froid de la nuit était la figure de ce que cette assemblée perverse accomplissait dans l'intérieur de la maison, l'iniquité abondait, et la charité d'un grand nombre se refroidissait. Donc, le feu était à l'extérieur et non plus à l'intérieur. Le feu qui est à l'extérieur de l'âme ne peut pas réchauffer l'âme de l'intérieur. Au contraire, le feu de la charité qui est à l'intérieur d'une âme va pouvoir réchauffer cette âme. Et à ce moment-là, l'âme va avoir la force de la vertu de charité. Au contraire, si le feu est à l'extérieur, la charité d'un grand nombre va se refroidir. Et c'est ce qui explique pourquoi les apôtres vont abandonner notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, saisi pour un moment par le froid, Saint-Pierre cherchait à se chauffer au foyer des serviteurs du grand prêtre, c'est-à-dire qu'il cherchait un soulagement purement extérieur dans la société des méchants. Au lieu de se maintenir tout proche de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il aurait dû faire, il s'éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il laisse notre Seigneur Jésus-Christ aller seul devant Anna, devant Caïphe, devant Pilate, devant Hérode. Et étant loin de notre Seigneur Jésus-Christ, il sera plus réchauffé par la vertu qui sort du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc va se retrouver seul, et se retrouvant seul, il ne va pas pouvoir tenir le coup, il va trahir. Ici, donc, c'est l'allusion à la chaleur du Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, une dévotion capitale, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on oublie le Sacré-Cœur, un peu comme le jansénisme, au temps de Louis XIV, même après. Ce jansénisme qu'on appelait l'hérésie de glace, c'était le terme qu'utilisait saint François de Sales pour désigner cette hérésie épouvantable qui réduit la miséricorde de Dieu, qui referme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait que on tombe dans le découragement parce qu'on se retrouve tout seul. Bien, contre ce jansénisme, contre cet esprit mesquin qui réduit en quelque sorte la taille de la miséricorde de Dieu pour nous, l'Église catholique a toujours enseigné le culte, a toujours donné le culte du Sacré-Cœur. C'est tout l'apostolat de Saint Jean Eudes et l'apostolat de tous ces grands saints du 17e, 18e, 19e siècle qui ont beaucoup basé leur apostolat sur l'amour du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, encore une fois, est un lieu de refuge et il nous faut avoir cette dévotion au Sacré-Cœur. Vous savez que l'Église catholique a consacré le mois de juin comme un mois particulier consacré au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avançons, versets 60 à 65, Saint-Marc chapitre 14. Alors le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus en disant « Vous ne répondez rien à ce que ces hommes déposent contre vous ?» Et Jésus se taisait et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Êtes-vous le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre, déchirant ses vêtements, dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Alors quelques-uns commencèrent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing, à lui dire « prophétisez, valet, le meurtrissez de souffler ». Ici, il y a un point très important, le silence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus se taisait. Il aurait pu parler, il aurait pu faire un grand miracle, il aurait pu convertir Hérode, convertir Pilate, convertir Anna, convertir Caïphe, convertir tous ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là. Il ne le fait pas, pourquoi ? Jésus se taisait. Bien, Jésus se tait pour rattraper tous les péchés de la langue. Tous les péchés contre la charité. Nous verrons dans la Passion que notre Seigneur va offrir le couronnement d'épines contre tous les péchés d'orgueil. Il va offrir la flagellation contre tous les péchés, contre la pureté. Mais le silence de notre Seigneur Jésus-Christ est offert pour rattraper tous les péchés contre la charité. Les péchés, les mensonges, les jugements téméraires, les médisances, les calomnies. On dit que les péchés contre la charité sont les péchés traditionnels des traditionalistes. C'est malheureusement un peu vrai, pas toujours, mais souvent. Il faut méditer sur ce silence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il n'est pas utile de parler, lorsque parler ne sert de rien, il vaut mieux se taire. En se taisant, on laisse la porte ouverte. Par contre, en parlant à l'emporte-pièce, en parlant quand il faut mieux ne pas parler, on détruit tout. Donc il faut méditer là-dessus. Combien de fois est-ce que j'ai trop parlé ? Combien de fois est-ce que j'ai voulu imposer ma façon de voir par mes paroles. Et du coup, ben, j'ai tout détruit parce que le bon Dieu n'avait plus la place pour travailler dans mon âme parce que je prenais toute la place. On dit que beaucoup de gens sont comme ça dans le monde moderne, et même avant. Ils parlent tellement qu'ils ne peuvent plus entendre notre Seigneur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils rentrent dans une église, beaucoup de jeunes surtout, ils rentrent dans une église, ils se mettent à genoux devant le Saint-Sacrement, font un petit acte d'adoration, et puis ils disent aussi, voilà mon Dieu, j'ai prévu ça, 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 et ça, voilà, je vais faire tel, j'ai passé tel examen, j'ai passé telle école, et je vais rentrer dans telle université, et je vais faire telle étude dans l'université pour obtenir tel travail, avoir un bon salaire, voilà, je fais ça. Et puis ils en vont. Après avoir demandé au bon Dieu, vous me donnez les grâces, s'il vous plaît, n'oubliez pas, hein, j'ai besoin des grâces pour réussir ces examens, pour réussir ces études que j'ai prévu de faire, pour passer tel concours, pour le réussir et avoir un bon salaire en fin d'études. Voilà, mon Dieu. Allez, au revoir, je vous aime bien, à bientôt. Jésus se taisait. Qu'est-ce que demandait Jésus à ce jeune homme? Peut-être tout simplement de présenter avec humilité à notre Seigneur, voilà mon Dieu, voilà ce que j'ai prévu. J'ai prévu telle grande école, tel examen, tel parcours universitaire. Mais au fait, qu'est-ce que vous en dites d'un petit projet? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est ça que vous voulez? J'ai prévu ça. Ça, c'est ma volonté propre et la vôtre de volonté dans cette histoire. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et si vous écoutez bien, peut-être que notre Seigneur va vous murmurer à l'oreille des choses complètement différentes. Peut-être qu'il va vous dire, ben non, moi ça ne me plaît pas beaucoup, parce que si tu rentres dans telle université, tu te lances dans tel métier qui va te rapporter peut-être beaucoup d'argent, ben tu vas perdre ton âme. Comme ce jeune avocat qui était venu me voir, qui venait de passer le barreau de New York, je l'ai peut-être déjà donné comme exemple, et je le redonne ici. Ce jeune avocat, une des premières retraites que j'ai prêchées aux États-Unis, il y a, en 81, non, un peu après, enfin, entre les années 80 et 90, je ne me rappelle plus exactement quelle année. Donc, je prêchais une retraite à New York, à Richfield, il y a ce jeune, une toute première retraite que j'ai donnée à Richfield, et il y a ce jeune avocat qui est venu faire la retraite, il a fait une très bonne retraite. En fait, il est venu faire la retraite parce qu'il s'est rendu compte, il venait de commencer à prêcher, à plaider en cour de justice à New York. Et il m'a dit, monsieur l'abbé, je me suis rendu compte, je viens de passer mon barreau, j'ai le droit maintenant de plaider, mais je me rends compte en plaidant que dans le milieu juridique américain, tout le monde ment, tous, du haut en bas. Les juges, les avocats, les avoués, les attorneys, tout le monde ment. Ils mentent comme des arracheurs de dents là-dedans, tous. Et monsieur l'abbé, je me suis vite rendu compte d'une chose, c'est que si je ne fais pas comme les autres, c'est-à-dire que je ne mens pas moi aussi comme un arracheur de dents, je vais perdre tous mes procès. Donc je vais être obligé de mentir. Ah, monsieur l'abbé, je suis venu faire la retraite parce que je voudrais savoir ce qu'en pense le bon Dieu. Eh bien, il a bien fait de se poser la question. Il s'est tellement bien posé la question, il a fait une très bonne retraite, il a vite compris qu'il ne pourrait pas conserver le salut de l'âme, son état de grâce, dans un milieu pareil, parce que justement, il serait trop tenté de faire comme tout le monde. Alors, il a compris, et après la retraite, il a changé de profession. En fait, il a repris des études, il était très courageux, il a repris des études, il est devenu comptable, expert comptable. Inutile de vous dire qu'il a diminué son salaire par 10, hein. Mais au moins, il pouvait sauver son âme. Il pouvait faire des études de comptabilité et après exercer comme expert comptable dans une société et rester en état de grâce. Par contre, c'était pratiquement impossible en tant qu'attorney ou en tant qu'avocat. Et donc il faut vraiment méditer ce point qui me semble absolument capital, le silence de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois est-ce que je parle tellement que mon Dieu ne peut pas en placer une, comme on dit vulgairement. Je parle. Il ne peut rien dire. Qu'est-ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ? Dans bien des cas, il demande à celui qui s'est mis à genoux devant le Saint-Sacrement se taire. De se taire, d'ouvrir ses oreilles. Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Comme Saint-Paul qui parle et qui a tout décidé, qui va envoyer tous ces chrétiens abominables enchaînés devant les grands prêtres pour les conduire tous au lion. Et sur le chemin de Damas, avec ses soldats, et c'est lui qui commande, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis le bon Dieu avait d'autres idées dans sa tête divine. Il précipite de son cheval, il devient aveugle, précipité par terre. Il entend une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ? Qui êtes-vous, Seigneur ? Qui êtes-vous, Seigneur ? » Et pour être sûr que saint Paul apprend à se taire, il va devenir aveugle pendant quelques jours. « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? » Et saint Paul va apprendre à se taire pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Il va tellement bien écouter notre Seigneur Jésus-Christ qu'il va devenir lui-même un apôtre, un des plus grands apôtres que la terre a jamais porté, le grand apôtre saint Paul. Et à nous, il faut que nous fassions nous aussi la même chose, mes bien chers frères. Nous aussi, il faut apprendre à nous taire. Si je ne sais, si je sais pas me taire, je vais me retrouver en grande difficulté. Parce que si je ne sais pas me taire, comme notre Seigneur Jésus-Christ s'est tu pendant la Passion, eh bien, je n'aurai pas les grâces. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ se tait devant Pilate ? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ se tait devant le grand prêtre ? Devant les scribes et les pharisiens, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas chez eux le désir du vrai. À chaque fois que quelqu'un vient me voir dans mon bureau que je ne connais pas, qui commence à me poser des tas de questions, c'est la première chose que je cherche à régler quand je peux, c'est est-ce que cette personne cherche le vrai ? Ou est-ce que cette personne, au contraire, est venue ici pour m'affirmer ses croyances ? Mais il n'y a pas dans cette personne l'humilité pour reconnaître qu'il est dans un état de dépendance totale de Dieu. Est-ce qu'il cherche le vrai ? Et si je vois que cette personne cherche le vrai, alors je peux prendre du temps avec lui. Si au contraire, cette personne ne cherche pas le vrai, je sais que je perds mon temps, je n'ai pas le moment. Donc en général, comme on dit vulgairement, je botte en touche. C'est-à-dire que je réponds à peine aux questions parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore l'heure, c'est pas encore, le fruit n'est pas encore mûr. Alors posons-nous cette question, est-ce que je sais me taire ? Et n'oublions pas que si j'ai commis dans le passé des péchés graves contre la charité, par mes médisances, mes calomnies, rappelez-vous, c'est un mensonge contre le prochain, pour détruire sa réputation par exemple. La médisance, c'est dire du mal du prochain, du mal qui est vrai, mais je n'ai pas le droit de dire. Faut pas croire que parce que ce que vous dites contre le prochain est vrai, il a vraiment fait cette action répréhensible dont vous parlez à tout le monde, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez le droit d'en parler. La médisance, c'est ça, c'est un péché par lequel je révèle des choses graves, mauvaises commises par le prochain, sans avoir une raison proportionnelle pour le faire, pour le dire. Je n'ai pas le droit de parler, il faut se taire, il faut savoir se taire dans la vie. Et donc si j'ai beaucoup trop parlé dans le passé, par médisance, par calomnie, par jugement téméraire, par affirmation téméraire, qu'est-ce que je dois faire ? Me taire. Apprendre à me taire. Et les pères de l'Église, ça c'est très intéressant, on voit ça au milieu de la page 27, sous les versets évangéliques, donc, juste sous verset 65, chapitre 14, verset 65, page 27 du Polycopie. Le silence de Jésus expie la défense, c'est-à-dire l'excuse coupable d'Adam. Adam avait trop parlé. Ève avait beaucoup trop parlé, entre autres elle avait trop parlé avec quelqu'un avec lequel il ne faut jamais parler, jamais dialoguer. Elle avait voulu dialoguer avec le démon. Et le démon l'a roulé dans la farine, justement parce qu'elle a accepté de dialoguer avec le démon. On ne dialogue jamais avec le démon, on s'enfuit, on s'en va en courant. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu va reprocher à Adam et Ève leur faute de désobéissance, leur faute d'orgueil, parce qu'ils sont pris pour des dieux et qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu qui avait dit « vous ne toucherez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Eh bien, Adam va présenter des excuses qui n'en sont pas. Ah, c'est la faute de mon épouse. C'est elle qui m'a poussé à manger. Alors Dieu va s'adresser à l'épouse, Ève. C'est la faute du démon. Ce n'est pas ma faute. Et chacun reporte la faute sur le voisin, la responsabilité de sa faute sur le voisin. Et Dieu va châtier et le démon, et Ève, et Adam. Le démon, il va le châtier rudement, justement, en disant qu'il mangera la poussière de la terre comme le serpent. Il sera condamné, donc, et qu'il est condamné à l'éternité de peine. Peine du dent, la peine d'essence en enfer. Ève, elle va avoir deux conséquences très graves du péché originel dont elle est responsable, à savoir d'enfanter dans la douleur, et la deuxième conséquence que les femmes oublient tout le temps, d'être sous la soumission de son mari, sous l'autorité de son mari. Je laisse aux femmes qui m'écoutent sur Internet le soin de me dire quelle est de ces deux conséquences du péché originel la plus pénible. Est-ce d'enfanter dans la douleur ou se trouver sous l'autorité du mari? Je crains que la deuxième conséquence soit plus pénible à supporter que la première. Quant à l'homme, Adam, tu gagneras ton pain, la sueur de ton front. La terre se couvrira d'épines et donnera plus du fruit sans travailler comme avant. Eh bien, nous aussi, nous sommes un peu du même genre, nous agissons un peu comme Adam et Ève, nous cherchons des excuses. Très souvent, trop souvent, nous cherchons des excuses. Il faut savoir ne pas chercher des excuses. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, dans ma maison. Dites simplement une parole et mon âme sera guérie. Comme Saint-Pierre qui sort, qui quitte le feu dans le prétoire, qui sort et qui se met à pleurer amèrement. Il n'y a pas cherché d'excuses. J'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Comme le bon samaritain, comme l'enfant prodigue. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis pas digne d'être reconnu comme votre enfant. Accueillez-moi à la maison comme donnez vos serviteurs. Eh bien, ne cherchons pas à commettre la même faute qu'Adam, ne cherchons pas des excuses à nos péchés. Seigneur, j'ai péché. Et quand je sais me mettre à genoux devant le bon Dieu, se représentant le prêtre en disant du fond du cœur, Seigneur, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. À ce moment-là, le bon Dieu pardonne. Mais il veut d'abord qu'on reconnaisse qu'on est coupable. C'est pour cela que la première chose qu'il faut dire quand on se met à genoux devant le bon Dieu ou son représentant le prêtre, c'est dire, Seigneur, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Première chose à dire. Ensuite, on explique, voilà, ma dernière confession, c'était il y a un mois, deux mois, trois mois, mais d'abord, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et le prêtre va vous donner cette bénédiction. Dominus et incorde tuo, in abis tuis, rite confetaris omnia peccata tua, nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Que le Seigneur soit sur ta bouche, sur tes lèvres, sur ta langue, pour que tu puisses, avec droiture, accuser tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on peut expliquer comment c'est dire ses péchés. Et quand on sait parler, à ce moment-là, notre confession est valide. Ce silence de notre Seigneur Jésus-Christ explique les pères, représente aussi tous ceux qui sont coupables. Ça, c'est un péché épouvantable de communion sacrilège, parce qu'il cache un péché grave. Une vision très belle sur ce sujet de saint Alphonse de Ligurie, le fondateur des rédemptoristes. Une fois, il confessait un gros pécheur, donc il l'encourage à accuser tous ses péchés. C'était pas confessé depuis très longtemps, et donc il a commencé à dire tous ses péchés. C'était pas confessé depuis des années. Il commence à dire tous ses péchés. À chaque fois qu'il accusait un péché, saint Alphonse de Ligurie, qui était à côté de lui, donc en étole et en surplis, qui écoutait sa confession, la confession de cet homme, il vit à chaque fois qu'un péché était accusé, un serpent sortir de la bouche de cette personne et tomber par terre. Et donc, il y a des gros péchés qui étaient accusés à chaque fois, un serpent sortait de l'individu en question. Et à un moment, l'homme qui se confessait a commencé à accuser un très gros péché. Mais il a bafouillé, il a essayé d'emberlificoter la chose pour que le prêtre ne comprenne pas vraiment ce qu'il avait fait. Et en même temps, cet Alphonse de Ligurie a vu un énorme serpent, beaucoup plus gros que les autres, commencer à sortir sa tête de la bouche de la personne qui s'accusait. Mais il n'est pas sorti complètement, il a simplement sorti la tête, le corps est resté à l'intérieur de l'âme de l'individu qui se confessait. Et pendant que l'individu hésitait, n'accusait pas vraiment le péché grave, très grave qu'il avait commis, finalement il cache ce péché. Et saint Alphonse a vu à ce moment-là le gros serpent, beaucoup plus gros que les autres, qui était encore en grande partie dans l'âme de cette personne qui se confessait, ouvrir sa bouche, et tous les serpents qui étaient déjà sortis auparavant sont revenus, sont rentrés dans la bouche du gros serpent, puis la bouche s'est refermée, tout le monde est rentré dans l'âme de cette personne qui s'est retrouvée non seulement non pardonnée, mais avec un péché en plus, un péché plus grave en plus, un péché de communion sacrilège. N'hésitez pas, mes bien chers frères, quand vous vous confessez, que vous avez comme ça, vous êtes tenté de vous taire quand il faut parler. Il y a des moments où il faut se taire, des moments où il faut parler. Quand vous accusez vos péchés, il y a un bon silence et un mauvais silence. Le bon silence consiste à écouter la grâce du bon Dieu. Le bon Dieu qui parle. Le mauvais silence, c'est de ne pas accuser un péché. Il faut savoir à ce moment-là parler et dire au prêtre, monsieur l'abbé, j'ai un gros péché à dire. Et si là, je suis un peu gêné, je ne sais pas trop très bien comment l'accuser, ce péché. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Et le prêtre va vous aider. Vous savez, on a un petit peu d'expérience, on sait quels sont les péchés les plus difficiles à accuser. On sait quels sont les péchés ou le péché que les hommes ont le plus de mal à accuser. Et au contraire, le péché que les femmes ont le plus de mal à accuser, c'est pas le même. On le sait, parce qu'on a un peu l'expérience. Alors n'hésitez pas à dire au prêtre, mon père, j'ai besoin d'aide là. Un autre point très important dans ce silence de notre Seigneur Jésus-Christ, ce silence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur le pratique de temps en temps avec nous. On voudrait qu'il parle, il se tait, il attend. Parce qu'il est, notre âme n'est pas encore prête à recevoir les grâces. Alors notre Seigneur se tait. Et lorsque notre Seigneur se tait, il faut savoir ouvrir notre âme et attendre. Attendre que le bon Dieu daigne nous donner ces grâces efficaces pour que nous puissions vraiment nous convertir. Donc je reprends le texte des Pères de l'Église. Dans cette page 27, le silence de Jésus expie la défense, c'est-à-dire l'excuse coupable d'Adam. Si donc, qui que vous soyez, païen, juif ou hérétique, le mépris, l'infirmité et la croix vous paraissent outrageantes pour le Sauveur, rappelez-vous que c'est par là que le Fils de l'homme s'est élevé jusqu'à la droite du Père et qu'il redescendra dans sa majesté sur les nuées du ciel. Donc il faut regarder la croix. Quand vous avez besoin de vous taire, alors qu'il faut. Quand vous avez besoin de vous taire, alors que vous voulez parler, il faut regarder la croix. Et quand vous avez envie de parler, alors qu'il vous faut vous taire, il faut aussi regarder la croix. Et c'est en regardant la croix que nous serons justement plus forts pour remplir notre devoir d'État. Parfois, le bon Dieu veut qu'on parle. Parfois, le bon Dieu veut qu'on se taise. Je veux dire du mal du prochain, il faut mieux me taire. J'ai accusé un péché qui est bien difficile à accuser, vous me parlez. Ici, une citation de Saint Jérôme, en bas de la page 27. Le grand prêtre demande au Christ s'il est le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond qu'il est le Fils de l'homme. Pour bien nous faire comprendre que le Fils de Dieu et le Fils de l'homme sont une seule et même personne. Pourquoi il est Fils de Dieu et Fils de l'homme? C'est pour expliquer qu'il a une double nature. Il est fils de Dieu, donc il a une nature divine. Il est fils de l'homme, il a une nature humaine. Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Un Dieu en trois personnes. Donc une seule et même personne, la deuxième personne, la Sainte Trinité. Deux natures, nature divine, nature humaine, qui ne sont pas mélangées. Il ne faut pas essayer d'imaginer une espèce de chimère entre notre Seigneur Jésus-Christ, une espèce de mélange entre l'humanité et la divinité, tout ça mélangé ensemble, pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement homme, notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, plus exactement, il y a une double nature, divine humaine, et donc une double volonté, une double intelligence. Il y a une intelligence divine, une intelligence humaine, une volonté divine, une volonté humaine. Ce sont les hérésies monothélites, les hérésies monophysites, qui nie ou la double humanité, ou je veux dire, pardon, excusez-moi, la double intelligence ou la double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas tentés, dit Saint Jérôme, de faire de la Trinité une quaternité, mais que nous admettions que l'homme est un Dieu et Dieu un homme. Donc vous avez toutes ces hérésies du début de l'histoire de l'Église qui vont nier la Sainte Trinité d'une façon ou d'une autre. Ou parce qu'il nie une des deux natures de notre Seigneur Jésus-Christ, ou qu'il nie la triple personnalité en Dieu. Il y a trois personnes en Dieu, pourtant il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, le Saint-Esprit est vraiment Dieu, Dieu le Père est vraiment Dieu, pourtant le Père n'est pas le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit, un grand mystère. Afin que nous admettions que l'homme est en Dieu et Dieu en l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme. Vous savez qu'il existe, je vous l'ai déjà dit, je crois, une hérésie quaternite. Les hérésies quaternites, c'est ceux qui prétendent qu'il y a quatre personnes dans la Sainte Trinité. C'est complètement idiot, parce que Trinité dit, explique par le terme même, Sainte Trinité, Trinité, ça veut, trine, ça veut dire trois. Et bien, il y a des personnes, il y a une hérésie quaternite, c'est ceux qui prétendent que Notre-Dame est Dieu, est déesse, qui adore la Sainte Vierge. Ça, c'est inadmissible. Ça part d'une tentation sous apparence de bien. Un amour de la Sainte Vierge qui est déplacé, déformé, et qui pousse l'homme à adorer la Sainte Vierge, la Sainte Vierge Marie. Si vous adorez la Sainte Vierge Marie, vous êtes un hérétique. La Sainte Vierge Marie, elle est mère de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Elle n'a pas la nature divine. Elle a eu la nature divine en elle pendant 9 mois, en gardant dans son sein très pur notre Seigneur Jésus-Christ, qui était vraiment Dieu. Elle a même uni, donné son propre corps, son sang. On peut dire que le corps et le sang, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qui coule dans les veines de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était au moins au début le sang de notre Sainte Vierge Marie, attention. Cependant, notre Sainte Vierge Marie n'est pas Dieu. Donc Jésus dit qu'il est assis à la droite de la puissance, c'est-à-dire régnant au sein d'une vie éternelle, d'une puissance toute divine et venant sur les nuées du ciel. C'est le verset 62. On lui pose la question, « Êtes-vous le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répond, « Je le suis. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Vous verrez le Fils de l'homme, donc l'humanité ici, assis à la droite de la puissance de Dieu, la divinité. Et notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de l'homme parce qu'il est vraiment homme, mais il est assis aussi à la droite du Fils de Dieu, à la droite, pardon, de la puissance de Dieu parce qu'il est vraiment Dieu. Et donc, les membres du Sanhédrin vont ne pas accepter ça, alors que notre Seigneur Jésus-Christ avait pourtant dit plusieurs fois à Sainte Marie-Madeleine, il avait dit plusieurs fois, à Nicodème aussi, il avait dit qu'il était Dieu. Il l'avait prouvé. Malheureusement, les membres du Sanhédrin ne vont pas accepter cette divinité. Les pères font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel sur une nuée et qu'il en redescendra aussi sur une nuée. C'est-à-dire qu'il est monté au ciel revêtu de ce corps qu'il avait pris dans le sein de la Vierge et qu'il viendra juger le monde avec l'Église qui est son corps, sa plénitude et qui est si variée dans ses membres. Donc, en étant membre de l'Église, nous sommes membres de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons sur nous une partie de sa divinité. N'oubliez pas que lorsque on communie une telle grâce, on s'habille de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On joint à notre humanité une divinité d'une certaine façon. Certes, nous n'avons pas la double nature comme notre Seigneur Jésus-Christ, mais la nature divine est en nous par la Sainte Communion. Donc, ils le condamnèrent à mort comme un criminel afin que, par cette condamnation, notre Seigneur pût expier nos propres crimes. Il prend sur nous les péchés des hommes. Ici, un texte admirable. Donc, ce commentaire des pères de la phrase « Alors quelques-uns commencèrent à lui cracher au visage. » Alors, quelques-uns, c'est verset 65, quelques-uns commencèrent à cracher sur lui, à lui valer le visage, à le frapper à coups de poing, et à lui dire prophétiser, et les valets le meurtrissaient de soufflets. Et vous avez ce très beau texte en bas de la page 27. Par ses crachats qui couvrent sa face adorable, notre Seigneur lave la face intérieure de notre âme. Moi aussi, j'ai craché sur mon âme. Mon âme créée à l'image et la ressemblance de Dieu. Créée à l'image de Dieu par l'existence. Par le fait que cette âme est une substance spirituelle, mais créée aussi à la ressemblance de Dieu par le baptême qui me marque, par l'état de grâce. Et j'ai couvert de mes crachats la face intérieure de mon âme par le péché mortel. Le voile que les Juifs jettent sur son visage fait disparaître le voile qui couvrait nos cœurs. Les soufflets qu'ils déchargent sur sa tête guérissent la tête du genre humain, c'est-à-dire Adam. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va accepter, si vous voulez, de prendre sur lui toutes les souffrances que nous faisons à notre propre âme. À chaque fois que je commets une faute grave, je crucifie notre Seigneur dans mon âme. Donc j'inflige à mon âme des conséquences terribles. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre sur lui le poids de nos péchés. Les soufflets que leurs mains appliquent sur ses joues ne méritent de pouvoir le louer des mains et des lèvres, selon la prédiction du roi prophète nation frappée toutes des mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ va vouloir purifier chacune des parties de nos âmes qui ont été utilisées pour offenser le bon Dieu. C'est pour cela qu'il va avoir le cœur percé par la lance pour attraper tous les péchés commis par notre cœur à chaque fois qu'on a aimé et manifesté de l'amour pour des gens qu'on n'avait pas le droit d'aimer. Ou pas de cette façon-là, au moins. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a eu ses yeux meurtris pendant la flagellation. Quand on lui a voilé le visage, il rattrape les péchés des yeux. Combien de fois est-ce que j'ai utilisé mes yeux pour regarder des choses que je n'ai pas le droit de regarder? Il va avoir les mains crucifiées pour rattraper tous les péchés que j'ai commis avec mes mains. Combien de fois est-ce que j'ai utilisé mes mains pour toucher des choses que je n'avais pas le droit de toucher? Faire des choses que je n'avais pas le droit de faire. Il va avoir aussi les pieds percés de clous. Les mains crucifiées, les pieds aussi crucifiés. Pourquoi? Pour rattraper toutes les fois, chaque fois que j'ai utilisé mes pieds pour aller dans les endroits où je n'avais pas le droit d'aller. Faire des choses que je n'avais pas le droit de faire avec mon corps. Donc notre Seigneur va souffrir et dans son âme et dans son corps et dans chacun de ses sens. Il va souffrir dans le goût, on va lui donner du vinaigre à boire pour attraper tous les péchés de gourmandise. Il va souffrir dans sa peau pour attraper tous les péchés que j'ai commis avec mon toucher. Pareil pour les yeux, pareil pour l'ouïe, pour l'odorat. Donc on va hurler à ses oreilles pour qu'il puisse rattraper tous les péchés commis avec les oreilles. Chaque fois que j'ai entendu des choses que je n'ai pas le droit d'entendre. J'aurais dû me sauver en courant et je suis resté pour écouter les choses que je n'avais pas le droit d'entendre. Saint Bède le Vénérable rajoute, c'est par l'effet d'un dessein mystérieux et plus profond que dans la passion du Seigneur, ce grand prêtre des Juifs déchire ses vêtements, c'est-à-dire l'éphod, tandis que la tunique du Seigneur ne put être partagée par les soldats eux-mêmes qui le crucifièrent. Donc ils vont se partager ses vêtements. Ils vont déchirer les vêtements pour se partager, mais pas la tunique. Parce que la tunique représente justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne peut pas être divisée. Alors voyons, passons à la page 28. C'était une figure que le sacerdoce des Juifs allait être détruit en punition des crimes des prêtres eux-mêmes, tandis que l'Église, souvent appelée la robe du Seigneur, résisterait à tous les efforts que l'on ferait pour le déchirer. Donc ils vont diviser ses vêtements, mais ils ne vont pas diviser la tunique, parce que cette tunique représente justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, représente aussi l'Église catholique, qui est une sainte catholique et apostolique, et donc indivisible, alors que les vêtements qui sont répartis entre les différentes personnes représentent justement le sacerdoce des Juifs, qui va être divisé, qui va être détruit par cette division. Avançons pour terminer ce chapitre 16, 14 pardon, de Saint Marc, page 28, versets 66 à 72. Tandis que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre survint. Ayant vu Pierre qui se chauffait, le regarda et dit, « Vous aussi, vous étiez avec Jésus de Nazareth ?» Mais il le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous dites. » Il sortit dehors, devant la cour, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu de nouveau, se mit à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est un d'entre eux. » Mais il le nia de nouveau. Et peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, vous êtes un d'entre eux, car vous êtes aussi Galiléen. » Ils le reconnurent à son accent. Les Galiléens avaient un accent très spécial. Il se mit alors à faire des imprécations et à dire avec serment, « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Et aussitôt, le coq chanta de nouveau. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, vous me renierez trois fois. » Il se mit à pleurer, sorti. Les pleurs de Saint-Pierre. Saint-Pierre est devenu Saint-Pierre parce qu'il a pleuré son péché. Judas aurait pu devenir Saint-Judas s'il avait pleuré son péché. Judas n'a pas pleuré son péché, il s'est suicidé, tombé dans le désespoir, se retrouve en enfer. Alors Saint-Pierre va être pardonné. Non seulement il va être pardonné, mais Dieu va le nommer chef de son Église, premier pape. Donc si j'ai imité Saint-Pierre par le péché, imitons-le aussi par mes pleurs, que je sois capable de pleurer. C'est triste parfois de voir des gens qui ne sont pas capables de pleurer leur péché. Ils ont tendance à se trouver des excuses. C'est pour cela que lorsqu'on prêche les exercices Saint-Ignace, on ne fait pas les confessions tout de suite. On attend 2 jours et demi. Pourquoi 2 jours et demi? Parce qu'il faut au moins 2 jours et demi pour augmenter en nous la contrition. Et au bout de 2 jours et demi, on a compris la gravité du péché, on commence à comprendre l'amour du bon Dieu pour nous, et du coup, alors à ce moment-là, on peut faire une bonne confession et pleurer. C'est ce qu'a fait Saint-Pierre. Je vous ai déjà expliqué que Saint-Pierre a tellement pleuré son péché, on dit qu'à chaque fois qu'à Rome, il entendait un coq qui chantait, il pleurait ses péchés. Parce qu'il se rappelait la parole de notre Seigneur, « Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, vous m'aurez renié 3 fois. » Il a tellement pleuré qu'il y avait, disent ces historiens, il y avait de chaque côté de ses joues, sur ses 2 joues, à droite et à gauche, comme un canal, creusé dans la chair par les larmes qu'il a répandues. Mais qui est aussi, si j'ai beaucoup péché, qui est aussi, sur mes joues, un canal pour faire passer les larmes de repentir que je dois verser en suivant l'exemple de Saint-Pierre. Voilà ce que disent les pères. Pourquoi Pierre est-il tout d'abord aperçu et découvert par une femme, alors qu'il y avait là un grand nombre d'hommes qui auraient dû bien plutôt le reconnaître? C'était pour montrer la part que prenait à la mort du Seigneur ce sexe qui avait aussi été racheté par sa passion. N'oubliez pas que le premier péché de désobéissance était commis par une femme. Après le péché de Lucifer et des anges, le premier péché commis par un homme, c'est le péché d'Ève. Ensuite, elle l'a fait commettre à son mari. Et c'est parce que le mari, qui était chef de famille, a commis le péché en tant que chef de famille et chef de l'humanité, qu'il a fait passer le péché dans toute l'humanité. Et si Ève seule avait péché, nous dit saint Thomas d'Aquin, si Ève seule avait désobéi et que Adam n'eût pas accepté de manger le fruit défendu, le péché originel ne serait pas passé. Le péché originel est donc passé à cause du péché d'Adam. Donc Adam a péché plus gravement qu'Ève. Je vous ai déjà expliqué que quand deux époux meurent ensemble, un accident de voiture par exemple, ils sont broyés par un camion tous les deux meurent et passent en jugement devant le bon Dieu, le Dieu va d'abord juger l'homme parce qu'il est chef de famille. C'est par un dessein providentiel que Dieu permit cette chute afin que Pierre ne fût point tenté de s'enorgueillir. Et aussi pour lui inspirer une grande compassion pour les pécheurs, instruit qu'il était par lui-même de la faiblesse humaine. Saint-Pierre nous apprend la nécessité de la vertu d'humilité. Si je sais pleurer, je saurai devenir humble. Si je ne sais pas pleurer, je ne peux pas devenir humble, je reste dans mon orgueil. Les larmes de Pierre renouèrent donc les liens qu'il attachait au Sauveur. Cet exemple condamne et confond les Novatiens, qui prétendent que celui qui pèche après avoir reçu le baptême ne peut être admis à l'espérance du pardon. Les Novatiens étaient ceux qui disaient que ceux qui avaient failli pendant la torture, qui n'étaient pas morts martyrs parce qu'ils avaient trahi notre Seigneur Jésus-Christ sous la torture, ne pouvaient jamais être pardonnés. Eh bien, les larmes de Saint-Pierre montrent que tout le monde peut être pardonné si on regrette nos péchés, si on s'accuse avec contrition, avec l'accusation complète, avec la réparation, le désir de réparation, le bon Dieu pardonne tous les péchés, même les plus graves. Donc les Novatiens prétendaient que celui qui pèche après avoir reçu le baptême ne pouvait pas être admis à l'espérance du pardon. Donc voici Pierre qui avait reçu le corps et le sang de Jésus-Christ et à qui cependant la grâce du repentir est accordée. Donc là, on voit avec le Novatianisme, les débuts du jansénisme. Le jansénisme c'est pareil, c'est la religion, saint François de Sales appelait le jansénisme la religion de glace. On oublie la miséricorde. Malheur à celui qui oublie la miséricorde. Autre phrase des pères, une très belle phrase. Les faiblesses des saints ont été écrites pour nous apprendre que si nous venons à tomber par défaut de vigilance, nous devons nous rappeler leur exemple et mettre toute notre espérance dans la miséricorde de Dieu. Une faute d'orthographe que je dois corriger là. Donc, il nous faut imiter les pleurs des saints pour pouvoir un jour partager leur gloire au ciel. Et Saint Jérôme donne le sens allégorique de ces trois chutes. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ va racheter les 3 chutes de Saint-Pierre de 2 façons. D'abord en chutant 3 fois pendant le chemin de croix. 3 fois, il va chuter sous le poids de la croix. Et aussi après la résurrection au bord du lac. après la pêche miraculeuse, il va prendre Saint-Pierre à part et trois fois il va lui poser la question. Pierre, Céphas, Pierre, fils de Jonas, est-ce que vous m'aimez plus que les autres? Et trois fois il va reposer la même question à Saint-Pierre. Pierre, est-ce que vous m'aimez plus? Pierre, est-ce que vous m'aimez plus que les autres? Seigneur, vous savez que je vous aime. Pourquoi cette triple question de notre Seigneur Jésus-Christ pour rattraper la triple chute de Saint-Pierre? Donc les pères disent qu'au sens allégorique, c'est un texte de Saint Jérôme. La première servante, c'est l'âme qui chancelle. La deuxième, c'est le consentement. La troisième, c'est l'acte même du crime. Quand on commence à chanceler, on commence déjà à trahir notre Seigneur. On ajoute à cette trahison en consentant, et lorsqu'on commet l'acte pécamineux, évidemment, on offense encore plus le cœur de notre Seigneur. Mais dans les trois cas, Dieu pardonne. Dieu peut pardonner le fait que j'ai chancelé si je regrette. Dieu peut pardonner le consentement si je l'ai donné au péché. Et Dieu peut pardonner l'acte même du crime. C'est ce triple consentement, ce triple renoncement, pardon, que le souvenir des paroles de Jésus lave dans les larmes de la pénitence. Le coq nous fait entendre sa voix lorsqu'un prédicateur excite nos cœurs à la compunction et au repentir. Nous commençons à pleurer lorsqu'une étincelle de la parole vient embraser notre cœur. Nous sortons dehors pour pleurer encore plus librement lorsque nous rejetons hors de notre âme toutes nos anciennes habitudes. C'est ce qu'il faut faire avec la confession, mes bien chers frères. Exciter en nous la compunction, le repentir, demander est-ce que la charité du bon Dieu vient embraser nos cœurs et au moment où nous rejetons, nous recevons l'absolution, allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous pardonne de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le bon Dieu, par le feu de sa miséricorde, le feu de son amour, brûle tous ces péchés qui disparaissent. Voilà, nous avons terminé, Dieu aidant, le chapitre 14 de Saint-Marc, il nous reste deux chapitres, chapitre 15 et chapitre 16. Encore deux ou trois cours, je pense, pour terminer l'évangile selon saint Marc. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.